Bonjour et bienvenue dans le Bulletin Azur, témoignage. Nous sommes le 20 décembre 2011. Et donc, pour rappel, l'URL de référence du Bulletin Azur, c'est akms/lebulletinazur. Sur Twitter, nous tweetons sur celui de Windows Azure France, @WindowsAzureFR, ainsi que vous avez aussi les comptes Twitter de Pierre Cousy, de Thomas Conté et le mien. Nous sommes ici dans un épisode en parallèle des épisodes de nouvelles qui est dédié à des partenaires, des communautés ou des clients. Et là, nous avons deux parmi les trois, à savoir un partenaire et un client. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Florent, comment t'appelles-tu?
Florent Santin, donc je suis spécialiste Windows Azure pour la société Infinite Square, un pure player Microsoft.
Oui.
Donc mon travail et celui de mes camarades sur la partie Windows Azure, c'est d'aider les gens qui veulent aller vers Windows Azure, de les accompagner du début jusqu'à la mise en production, de les former, etc.
D'accord. Et François?
Donc moi je m'appelle François Simoès, oui. Je suis responsable des opérations chez Media Mobile, donc c'est une société filiale de TDF.
Oui.
Plus connu sous le nom VTraffic. Donc, VTraffic, on a un beau portail VTraffic. Et voilà.
Donc, quel est le métier de VTraffic?
Donc, notre métier à nous, c'est de faire sauter les bouchons.
Oui.
Donc, on parle des bouchons de trafic.
Oui.
En fait, notre métier à nous, c'est de recueillir l'info de divers fournisseurs, qu'ils soient publics ou privés, ou même nous-mêmes générer l'information.
D'accord.
Recueillir toutes ces sources, recueillir, enrichir toutes ces sources, agréger, éditer. Sur une plateforme qu'on a, nous, en interne.
Ouais.
Ça, c'est typiquement notre métier, prioriser, rechercher différents types d'événements, et après de diffuser tout ça sous toutes ses formes.
D'accord. Donc, par radio, par Internet, par...
Voilà. Donc, comme on est une filiale de TDF, ça tombe bien.
Ah oui.
Parce que TDF, Diffusion, TV, Média, on profite de leur infra pour diffuser ça. Donc, ça, c'est notre première activité, diffuser toutes ces informations-là. Par broadcast, par les ondes, et après, sous véhicule, aux voitures, de recevoir, avoir le petit récepteur qui va bien, exemple Renault, Carminat, reçoit et, donc, très bien ces infos-là, et permet de faire des calculs d'ITI ou de éviter les bouchons.
D'accord, et donc en termes de modèle économique, ces données-là, elles sont vendues à Renault, par exemple, ou aux conducteurs de Renault
En termes de modèle économique, sous le format broadcast, c'est un petit peu différent, en fait, il faut une clé pour décrypter.
D'accord.
Après, c'est une clé par abonnement ou une clé à vie. On travaille beaucoup en B2B. Donc, soit on a la clé, soit on ne l'a pas.
D'accord.
Comme on est un diffuseur premium, c'est une clé cryptée. Donc, il faut décrypter la clé et après, on obtient toutes ces infos-là. Et après, il y a un travail pour l'intégration de toutes ces données-là dans le terminal, en fait.
D'accord. Et alors, il y a un autre mode de diffusion qui est plutôt par les sites web ou des applications sur smartphone.
Tout ce qu'on appelle en mode connecté.
D'accord.
En fait, c'est des sites web comme, exemple, vtraffic.com.
Ouais.
Donc, ça, c'est plus notre vitrine. C'est pour montrer ce qu'on sait faire. Après, il y a des sites comme Météo France sur lequel l'onglet route. Si vous allez sur l'onglet route, vous allez voir notre info, vTraffic.
D'accord.
Puis après, il y a des MyTF1, par exemple, on est aussi dessus. Après, on est aussi chez les opérateurs. En fait, c'est notre deuxième activité qui commence à croître énormément, où on revend aussi notre info par un autre moyen, qui est plutôt que la diffusion en mode broadcast, on diffuse à la demande. Il veut de la météo, il veut des POI, il veut des conditions de route, il veut des temps de parcours, des événements.
D'accord, donc là aussi en mode B2B, sauf pour le vTraffic, où là c'est par la publicité.
Voilà,
que...
mais toujours en B2B, et comme le client le demande. S'il veut des calques, s'il veut des événements en format XML, en raw data, en toutes ces formes, on est d'accord, on l'ouvre, et c'est comme ça qu'on fait les services connectés.
D'accord. Et donc, il a été décidé à un moment de passer sur Windows Azure, mais j'imagine que ça n'est pas venu comme ça d'un seul coup. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, en fait, il y a eu deux facteurs qui ont fait qu'on est... Pourquoi Windows Azure? Le premier, c'est une grosse chute de neige qui s'est passée, je sais pas si tout le monde se souvient, du 8 décembre exactement. C'est vraiment marqué que je me souviens de la date et le jour exact.
Le 8 décembre. Le 8 décembre.
Ah oui.
C'est un lundi, non?
C'était un jour de semaine, ça je me rappelle encore. Et le soir est tombé énormément de neige sur Paris, IDF, toute la région parisienne, il y a eu... vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige. Donc, les gens, pour se rendre chez eux, même pouvaient pas rouler.
Oui.
Et il y en a même qui dormaient dans leur voiture. Enfin, c'est un gros, gros événement du point de vue trafic. Alors, évidemment, la météo, ça influe sur le trafic.
Oui.
Donc là, on a eu plus de 10 fois notre charge par rapport à un pic qu'on a habituellement, plus de fois 10.
D'accord.
Donc là, on a eu beaucoup de mal à répondre. Là, vTraffic, c'était très lent. On a eu beaucoup, beaucoup de mal à répondre à la demande qui était super grandissante, alors que c'était le moment de se faire connaître, quoi.
Oui.
Donc, ma direction.
Des bouchons sur le site aussi, quoi.
Ah ouais, exactement. Exactement. Donc là, ma direction a dit, il faut trouver une solution, il faut résoudre ce problème, il faut mettre plus de ressources. Évidemment, chez un hébergeur classique, c'est difficile de mettre 100 serveurs d'un coup, comme ça, en 5 minutes, quoi.
La
neige
ne
prévient pas quand elle tombe, en fait. Mm-hmm. Voilà. Donc ça, c'était la première demande de ma hiérarchie.
Ouais.
Et la deuxième, c'était, il faut faire plus avec moins.
Ah oui, tant qu'à faire.
Donc en fait, c'est-à-dire que je ne dois pas être le premier à qui on demande ce genre de choses. C'est-à-dire que mon hébergeur classique, il fallait réduire les coûts. Donc
d'accord.
Il faut réduire les coûts et en même temps être plus scalable. Donc en fait, là, c'était vraiment une grosse demande. Donc par chance, le cloud arrive et le cloud répond à tout ce type de besoins, en fait.
Du coup, tu as profité en fait des scénarios qui sont souvent donnés pour le cloud.
Exactement. On m'a montré ces quatre patterns,
ouais.
Donc les pics imprévisibles, puis la croissance rapide, les pics prévisibles. Donc moi, je rentre bien dans ces trois derniers patterns-là.
D'accord.
Donc moi, c'est clair, on m'a montré ces patterns, j'ai dit je veux les trois, quoi. Les trois me plaisent. Donc moi, ça répond complètement à tous mes besoins, en fait. Donc le cloud, je me suis rendu curieux, je suis adressé à Microsoft pour ça.
D'accord. Et puis après, je crois qu'il y avait aussi une certaine culture Microsoft aussi, et au niveau TDF et au niveau...
Voilà. On est une filiale de TDF. TDF a un vrai accord avec Microsoft. Donc, connaissent bien les gens. M'a permis de rentrer en contact avec Microsoft.
Ouais.
Et on est en plus, nous, en framework.net, on a vraiment une culture Microsoft. Ça veut dire on développe sous Visual Studio. Enfin, classiquement, on est vraiment .NET à la base. Donc, c'est un choix naturel.
Oui, c'était assez logique, en fait, du coup.
Voilà, naturel et en plus plus rapide à être intégré. Parce que si on va vers une solution tierce, c'est plus compliqué. Il faut redévelopper beaucoup plus.
Alors, comment ça s'est fait, du coup ?
Alors, comment ça s'est fait ? Je te laisse parler, là, parce qu'on s'est rencontrés.
Une rencontre, on s'est croisés au hasard chez Microsoft en soirée. François venait d'avoir une présentation sur Windows Azure.
D'accord.
On s'était déjà croisés, donc on a discuté, on s'est mis dans une salle avec un tableau blanc.
Mmh.
Et François a dessiné son architecture actuelle et dit, aujourd'hui, j'ai ça. Mon objectif, c'est ça. J'ai eu ces problèmes-là, il faut que ça soit dans Azure.
D'accord.
Donc on a réfléchi comment un petit peu lever ce challenge. Donc on a décidé de... faire un proof of concept, donc on sait, il n'y a pas 12 000 solutions, là, à un moment donné, il faut mettre les mains dans le cambouis. Donc, j'ai dit à François.
Puis en plus, t'aimes pas ça, toi.
Ah non, je déteste ça tombe. J'ai dit, François, écoute, on prend deux salles avec des gros tableaux blancs pendant une semaine.
Ouais.
Tu me ramènes tous les leaders de tes développeurs. Nous, on met deux architectes chez nous. Et puis, on va prendre tous les sujets les uns à la suite des autres. Et à la fin de la semaine, il faut que tu aies quelque chose qui fonctionne dans Azure. Mmh. Donc, on est vraiment parti en mode, sur le coup, une approche agile.
Ouais.
Et puis, vous allez voir la conclusion juste après. Et l'objectif, une pré-version. Donc, ça, c'était première étape. Et puis ensuite, évidemment, cycle de dev classique. Mmh. Donc, moins besoin de nous sur le coup. François a continué avec ses équipes pour finaliser le projet. Et juste à un moment donné, un petit coup de téléphone, quand il a fallu commencer à estimer, mais OK, ça marche dans Azure, mais... Combien ça va nous coûter, qu'est-ce que je dois prévoir comme infrastructure au niveau d'Azure. Et donc là, on a fait un petit test de charge dans Azure pour pouvoir simuler le trafic et commencer à avoir des idées de combien d'instances il faudra,
estimer le coût.
SQL, etc.
Avec des injecteurs dans Azure aussi ou...
tant qu'à faire, c'est mieux.
Exactement.
D'accord. Et puis ensuite, il y a eu la mise en œuvre, effectivement, enfin, pour aller en prod, etc. J'imagine.
C'est ça. Donc en fait, ça s'est passé en décembre, le 8 décembre 2010. Et puis on s'est fixé comme objectif que après le proto, il fallait que ce soit en prod, donc prouvé, certifié que ça a été fonctionnel pour les congés de juillet-août.
Pourquoi ?
Là, il y a pas mal de pics aussi. Il y a déjà les départs, puis après il y a les croisements juilletistes et haussiens, ça, il fallait que ça réponde, quoi.
Surtout
en termes de scalabilité.
D'accord.
Donc là, c'était
c'est l'objectif,
la mise à l'épreuve sur le terrain, quoi, en fait.
Mm-hmm.
Après les tests de charge, c'était vraiment le test sur le terrain. Et impeccable. J'aurais même voulu un peu plus de charge.
Bon, je vous propose de regarder un peu comment est faite l'architecture. Donc, okay. François, t'es venu avec un schéma. Donc
là,
comment ça nous présenter ?
Donc c'est quand même assez spécifique parce qu'effectivement François a dit oui, je fais que du .NET, on fait que du .NET, on est dans la culture Microsoft. Et puis quand il a commencé à me lister sur le tableau blanc les produits qu'il utilise, donc il m'a sorti du SQL Server, ça va, un peu de service Windows, ça va, l'aspect .NET, on l'a vu. Mais après il m'a sorti à MongoDB, il m'a sorti des serveurs MapServer qui tournent sous Apache, il m'a sorti du Memcache, et il m'a dit, ben voilà, c'est ça qu'il faut mettre dans Azure.
Mais, c'est ça mes trucs en .NET qu'il faut mettre dans Azure.
C'est pas du .NET, oui, mais Florent, sur la génération de Carto, bah, il n'y a pas 12 000 produits, et nous, on utilise celui-là, donc
il m'a dit qu'il faut bien le challenge, tu m'as dit.
Et puis, tant qu'à y être, il m'a dit, on ne pourrait pas tout mettre dans Azure, parce qu'il y a des données critiques, celles qu'on voit en bas du schéma. Ça, c'est notre savoir-faire, c'est notre calcul. Et donc, ça, on veut que ça reste chez nous. Donc, on ne va pas tout mettre dans Azure. On va juste, ce qui consomme de la recharge, ce qui est visible, ce qui est public, là, on va le mettre dans Azure.
D'accord, oui. Donc, il y a une partie seulement, en fait, qui est migrée dans Azure. Enfin, il y a vraiment les deux zones différentes, quoi.
En fait, c'est ce qu'on voit dans le carré blanc. Et oui. Moi, je veux conserver mon core business, quoi. Mes règles métier, mon agrégation, tout ce que je fais avec les données brutes, je veux le conserver. Et ça c'est pas fait pour être dans Azure. Je veux pas exposer ça dans Azure. Par contre, la partie front-end, partie affichage de toutes ces données, la partie diffusion, là, ça va bien dans Azure. Parce que là, ça répond bien à la scalabilité, ça répond bien au pattern. Donc, j'ai dissocié ma plateforme en deux, on va dire, on l'a découpé en deux. La partie visibilité, la partie interface, on la met dans Azure. Et la partie core business, on la laisse chez mon hébergeur classique, on-premise.
D'accord. Donc, ce côté un peu Windows Azure en tant que DMZ, quoi. Enfin, pour exposer les choses sur Internet de façon sécurisée.
Et en plus, ça sécurise beaucoup plus ma plateforme. Parce que même si on arrive à rentrer dans le front-end, maintenant, pour redescendre en bas...
Oui, maintenant, il y a deux zones au lieu d'une, quoi.
Maintenant, il y a deux zones au lieu d'une. Mais par contre, il me fallait une interconnexion entre les deux, puisqu'il faut la diffusion, diffuse bien quelque chose, en fait.
Donc, comment est-ce que ça fonctionne sur le schéma, là? Si on part du bas, on a effectivement la partie média mobile, donc tout ce qui est le core business, quoi.
Voilà.
Et donc, il y a de la donnée qui est publiée, et puis qui est envoyée à différents endroits dans Azure. Donc, Azure, c'est la partie en bleu, hein, forcément.
Forcément, c'est Azure. Donc là, on a travaillé brique par brique, en fait, justement, avec les différents interlocuteurs, dans les collègues de François. Donc, procéder par étapes. Donc, sur la partie purement données relationnelles, c'est là où, effectivement, on s'est retrouvé avec un MongoDB qui était là pour des problématiques de performance dans l'ex-architecture on-premise. Puis là, finalement, on en a profité.
Cette partie-là, là.
Tout à fait. Ces deux bases de données, notamment pour stocker des données géospatiales, donc requêtage assez performant. Donc, finalement, on a regardé ça. Donc, ça, c'est Vtraffic, ils n'ont pas commencé à développer il y a un an. Donc, il y avait un existant. Donc, finalement, souvent, on se rend compte que quand on migre dans Azure, on en profite pour rechallenger des choix qui avaient été faits dans le passé, se reposer les bonnes questions. Et puis là, finalement, on s'est dit, mais MongoDB, on pourrait le faire tourner dans Azure, on sait le faire, il y a des gens qui l'ont fait, il n'y a pas de souci. Mais plutôt que d'essayer de faire entrer ça, autant calculer l'impact de redévelopper ce qui est utilisé là avec du SQL Azure, puisque SQL Azure, ça s'appuie sur SQL, enfin, c'est comme du SQL Server. Et derrière, on a tout ce qu'il faut pour faire de la requête géospatiale. Donc finalement, on avait une difficulté, on l'a écarté un petit peu simplement. On a dit, plus de MongoDB, SQL Azure, on va quand même faire une petite évaluation. J'enlève ça, je mets ça, est-ce que niveau performance, je m'y retrouve? Est-ce que niveau coût, je m'y retrouve? Oui, donc on garde ça. Donc ça, finalement, c'était la première étape facile. Il y en a eu d'autres.
Donc le fait d'utiliser les données spatiales, en fait, a fait qu'il y avait peut-être moins de données ou que c'était plus naturel, en fait, dans le moteur de données. Donc voilà, quoi.
Mais on se rend compte souvent de ça avec Windows Azure, c'est qu'on avant même de migrer, on optimise les architectures, on prend du recul sur les architectures. Et puis même souvent, on a des gens qui disent « Non, mais j'ai plus besoin d'aller dans Windows Azure, j'ai déjà réduit par deux mon nombre de machines. » Non, mais c'est vraiment, ça permet de prendre du recul. Donc c'est...
Ok.
Et puis c'est plus scalable aussi, parce que si on peut requêter 15 instances de SQL Server en parallèle par rapport à mon pauvre MongoDB
qu'il fallait paralléliser.
D'accord.
Donc ça, simple.
Oui. Après, il y a une partie App Fabric Service Bus, je vois ici.
Ah oui, alors ça, c'est une brique magique que j'ai découvert en profitant de ce passage. Parce qu'en fait, j'ai des map serveurs. Donc, map serveur, c'est ce qui me dessine toutes mes cartes. Et ces map serveurs-là fonctionnent avec des...
Le map serveur, il est ici.
À droite.
Voilà, c'est ça. Ces map serveurs-là fonctionnent avec des fichiers on ne va pas rentrer dans le détail de l'explication des map serveurs, mais fonctionnent avec des fichiers qui permettent de créer des cartes.
D'accord.
Pour des réseaux, pour des zones. Et le service bus Azure permet de diffuser une seule fois les données. Et après, si j'ai 15 ou 25 map serveurs qui viennent récupérer ces données-là, en un clic, c'est super rapide la diffusion d'une même donnée sur 25. C'est de la synchro, en fait.
Donc, en gros, le Data Publish Windows Service là, qu'on a en bas, il va envoyer au Web Fabric Service Bus un message. Et ce message va être rediffusé à tous les abonnés, donc qui sont les worker roles du map server. Et donc, eux sont notifiés juste avec un seul envoi de message depuis...
Voilà, et ils sont à jour, tous en même temps, au même moment.
D'accord.
Alors qu'auparavant, je m'amusais à copier moi-même sur autant de map
server.
Il fallait que j'envoie les données 10 fois si j'avais 10 map server. Et si je rajoutais 5 map server de plus, il fallait pas que j'oublie de rajouter 5 fois la publication.
D'accord.
Là, c'est complètement automatique. C'est de l'abonnement du PubScribe, quoi.
Publish Subscribe de Windows Azure Service Bus. Donc là, on est en relais, dans le mécanisme synchrone de Windows Azure Service Bus, hein, c'est ça?
Tout à fait. Ouais. Et là, vu qu'il faut bien quand même diffuser de la donnée, on n'est pas que sur du message. Avant d'envoyer le message, côté média mobile, la donnée qui a été préparée est mise à disposition dans un blob, qui est un espace de stockage temporaire finalement, mais qui a l'avantage de pouvoir stocker des volumes de données assez conséquents. Et donc ensuite, les différents map servers vont chercher les données dans ce blob-là pour pouvoir commencer à travailler et générer vraiment les fonds de cartes.
D'accord.
Et justement, alors les map servers, parce que tout à l'heure je disais MongoDB est facile, on est passé à côté en remplaçant l'architecture, mais finalement on n'a pas pu tout faire comme on
voulait. T'as pas pu mettre un Apache.net ou...
Et non, là sur le coup, map server, on s'est retrouvé avec à découvrir ce produit que je ne connaissais pas, mais qui est connu dans le monde de la carto. Et là, le livrable, l'installation, c'était un serveur Apache avec quelque chose à faire tourner là-dessus. Et donc, il faut faire entrer ça dans Azure.
Ouais.
Alors, on sait très bien qu'Azure, c'est du Windows, donc on n'a pas de problème pour faire tourner autre chose. Apache, ça tourne sous Windows. Donc là, approche classique d'interop, un worker role qui tourne dans Azure, qui installe le serveur Apache, qui installe et configure map server. Et aujourd'hui, donc, on rajoute des serveurs Apache.
La seule, entre guillemets, difficulté, c'est d'arriver à automatiser la personnalisation du worker role en un serveur Apache.
Tout à fait.
Et map server, quoi.
Et ce qui finalement n'a pas été si compliqué que ça, puisque c'est la manière d'installer, de déployer le map server, mais qui était déjà faite on-premise. Donc on a juste mis dans un package Azure ce programme d'installation de map server.
D'accord, oui. OK.
Mais Apache marche très bien sur Azure.
Et Apache marche très bien. Aujourd'hui, prendre la charge.
OK, donc si on monte un petit peu après, on a la ferme web elle-même. Donc c'est là où il y a vraiment l'élastique. Hein.
Voilà, c'est là où j'appuie sur le bouton pour en mettre 50 ou 100. Et c'est là où vont directement s'adresser les utilisateurs pour voir les cartes, pour voir les événements et toutes les petites choses dynamiques qui changent.
On voit effectivement le navigateur qui va chercher. Donc là, il va chercher à demeure là, juste le tour de la page. Et puis après, les données, toutes les cartes, etc., ça va dans la partie WebRoll.
L'intérêt de centraliser ça, c'est que derrière, c'est caché. Vous voyez, il y a le même cache derrière qui tourne aussi très bien sous Azure.
D'accord.
C'est surprenant comme des applis qui tournaient auparavant sous Linux fonctionnent très très bien sous Windows.
D'accord.
Et ça me permet, moi, de centraliser les demandes là.
C'est
en cache et aussi de comptabiliser donc les statistiques d'utilisation de mes.
Histoire de savoir ce qui se passe.
Exactement. C'est très important.
Et donc là, il y a une version qui est en cours de préparation, c'est ça, avec un changement sur la partie cache distribuée, non?
Oui, c'est ça. En fait, on a fait évoluer ce qui était ça à la base vers une V3, parce qu'avant, on avait la V1 qui était chez mon hébergeur classique, la V2 qui est celle-ci qui fonctionne actuellement.
D'accord.
Et il y a la V3 qui arrive là, qu'on est en train de mettre en prod, qui, elle, on a complètement enlevé la brique même cache et on l'a mis sur du Windows App Fabric Cache, enfin Windows Azure Caching maintenant.
Ouais.
Et je gagne de l'argent.
Ah bah c'est bien.
Oui, parce que forcément, sur du même cache, on était sur des instances très très grosses pour avoir de
la RAM.
De la RAM.
Ouais.
Et donc là, il y a des économies
possibles. Ah oui, d'accord.
Je gagne encore de l'argent.
Oui, d'accord. Bah, c'est bien.
Ah, c'est tout ce que je demande. Faire plus avec moins, c'est ce qu'on m'a demandé à la base.
Ah bon, très bien. Impeccable. Impeccable, ça nous donne une bonne idée un peu de l'architecture. Un beau projet apparemment. Hein.
Ah oui, sympathique, sympathique.
Très intéressant.
Très bien. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc Vtraffic est passé sur Windows Azure avec InfinitySquare. Et donc on a parce qu'en fait le modèle de Vtraffic était assez en adéquation avec les scénarios
qui sont apportés
par le cloud.
Oui, voilà. Donc maintenant on y est conforme à ces patterns-là.
Donc on se retrouve avec un Windows Azure en tant que DMZ puisque c'est là que
sécurisé.
C'est par cette zone-là en fait que les données sont publiées. On a eu un premier prototype qui a été fait en une semaine.
Qui est important parce que c'est vraiment lui qui pose l'architecture et qui permet après de mettre le projet en chantier, de commencer à avoir des idées de combien ça va coûter et quel choix, même d'un point de vue financier.
Oui, puis se rassurer sur le fait que c'est faisable.
Enfin, une semaine pleine. Hein. C'est quand même, faut pas dire une semaine,
isolé.
Tout est gagné.
Hein. Et il faut s'enfermer, il faut faire
ça. Et on a eu pas mal d'aide de Microsoft donc, pour s'isoler, pour travailler ensemble et une semaine bien chargée, hein, on peut dire. C'est pas magique, quoi. Il y a quand même, faut travailler dessus, hein, pour y arriver.
Mais c'est des semaines dont on se souvient, après.
C'est des bonnes semaines.
Le vendredi, on rentre content chez toi.
Ah, bah, c'est
ça. Et donc, après, les tests de charge qui ont bien fonctionné, qui ont permis de voir que ça marchait bien.
Surprenant, oui. On s'attendait à un certain nombre de réponses, donc c'est le nombre de requêtes par seconde. Et on a eu beaucoup plus, hein, ça répond beaucoup plus. Donc en fait, je m'attendais à dépenser beaucoup plus que ce que je dépense aujourd'hui, en fait, en nombre de VM, en nombre de corps.
Ça s'optimise tout le temps.
Exactement.
Donc ne pas hésiter, comme tu l'as dit Benjamin tout à l'heure, à tester Azure depuis Azure, quitte à générer de la charge, de le faire autant depuis Azure, en mettant des injecteurs.
Ça fait un plus gros injecteur.
Exactement.
D'accord. Donc on a eu un premier jalon en juillet qui a été respecté.
Complètement.
Avec effectivement des tests un peu dans l'été.
Voilà.
Enfin, des tests, c'est vrai quoi.
Grandeur nature, on va dire. Donc maintenant, on attend de multiplier la charge, donc n'hésitez pas à aller sur le site VTraffic.
Et puis, il y a eu d'autres projets qui ont été faits avec Infinity Square récemment, là, dont entre autres une application sur téléphone, je crois.
Voilà, exactement. Une appli qui s'appelle MyVTraffic, qui est sur Windows Phone 7, qui remporte un vif succès, hein, grâce à vous. Et je vous invite à aller voir ce qu'on sait faire, qui en plus utilise du Bing Maps et qui en plus utilise les infra Azure qu'on a développées là.
Il n'y a plus qu'à essayer.
Il n'y a plus qu'à.
D'accord. Donc maintenant, en conclusion, visiblement, t'attends plus que la neige.
Ah, c'est ça. Pourvu qu'il neige. La même neige que le 8 décembre 2010, s'il vous plaît.
Bon, très bien. Eh bien, merci François, merci Florent, et puis à bientôt.
À bientôt.